RTS. Des personnes formées à la médecine académique qui s'appuient aussi sur des énergies mystérieuses pour soigner les corps et les âmes. La médecine et l'invisible. Une émission de Samuel Soquet et Pauline Vrolix. Et si la médecine et l'invisible pouvaient faire alliance?
Pour ce dernier épisode de notre saison 3, on vous propose une rencontre avec un ponte de la médecine, Éric Bonvin, directeur de l'hôpital du Valais depuis 2012 et professeur à l'Université de Lausanne.
C'est un personnage influent mais qui ne renie en rien son lien avec l'invisible.
Psychiatre et spécialiste d'hypnose médicale, c'est un homme d'une étonnante liberté de parole qui, malgré ses fonctions dirigeantes dans les institutions de soins valaisannes, garde un pied dans la clinique et aussi dans l'enseignement, car c'est dans l'acte de transmettre qu'il trouve un sens profond.
Et vous l'attrapez, Pauline, avant le début d'un congrès sur le thème de la médecine intégrative qui a lieu au Diableret dans le canton de Vaud, c'était au printemps de cette année.
Oui, équipés de nos chaussures de marche, nous cheminons au bord d'une rivière et pour débuter l'entretien, on évoque son enfance et son rapport au milieu médical.
Je pense que j'ai été depuis l'enfance extrêmement craintif de la médecine et de tout ce qui était de cet ordre-là, donc je pense que ça a été assez déterminant ensuite dans mon parcours. Et c'est probablement aussi là que se trouve une forme de préoccupation et de sensibilité que j'ai toujours à la question de la, on va dire, la bienveillance que l'on peut avoir dans le cadre de la pratique de la médecine et des soins. J'ai toujours été sensible à une chose qui a été l'idée que la médecine tend à réifier, c'est-à-dire à rendre objet en quelque sorte le patient. Le patient devient un cas, devient un organe qu'il faut réparer ou des choses comme celle-là. Et quand on fait cela, on exclut vraiment le porteur de la maladie. Et je crois que ça m'a toujours fait peur aussi, cette dimension-là. Ça m'a inquiété depuis l'enfance. Je sais que enfant, j'ai eu fui des des consultations médicales. Je m'enfuyais de la salle d'attente ou si je devais aller chez le dentiste, je m'enfuyais, je refusais des soins. J'ai refusé même à un moment donné, enfant, où je m'étais fracturé le poignet, j'ai refusé d'aller me faire soigner. Ça a pris plusieurs semaines jusqu'à ce qu'il ait fallu ensuite réintervenir. C'était, évidemment, ça s'est aggravé par la suite. Mais j'avais cette phobie, je n'arrivais pas à affronter cela. Et je ne voulais pas affronter cela.
Voilà. Bah, c'est quand même curieux pour quelqu'un qui est devenu ensuite médecin. C'est assez particulier, non, vous? Vous le constatez aussi ou...
Oui, c'est particulier. Et puis j'ai ensuite, peut-être en quelques mots, mais j'étais aussi un adolescent un peu rebelle. J'ai quitté l'école dès que j'ai pu. À l'âge de 15 ans, 15 ans et demi, j'ai quitté la scolarité. J'ai fait d'autres jobs, j'ai voyagé, j'ai fait des choses comme ça. Je suis parti. Mais cette inquiétude m'a permis à un moment donné de me tourner aussi vers les autres approches. Alors, qui permettait, par les plantes, enfin, je me souviens que j'avais trouvé un livre sur les vertus thérapeutiques des plantes qui m'avait fasciné, qui m'avait permis de traiter une histoire toute bête, hein, c'était des verrues plantaires que j'avais à mes pieds. Le dermatologue que j'étais quand même allé voir m'avait dit il faut couper tout cela, ça m'avait fait extrêmement peur, et je me suis précipité sur cet ouvrage de plantes où j'ai fait une simple macération de lierre grimpant pendant 3 jours dans du vinaigre que j'ai appliqué 3 jours ensuite sur ces verrues qui ont disparu. Et je me souviens que cette expérience m'avait éveillé dans le sens de me dire, mais enfin, on ne peut pas comparer ces deux choses. Une chose qui agit en 3 jours simplement, et une autre, une intervention intrusive, invasive de l'autre. Comment se fait-il qu'on ne se tourne pas vers ces possibilités-là? Et ça m'a beaucoup éveillé. J'étais projectionniste de cinéma. Je gagnais ma vie comme cela depuis l'âge de 16 ans. Donc le soir, je projetais des choses et j'étais dans une station où j'étais un peu un projectionniste itinérant entre les stations de ski en Valais. Et quand j'étais à Anzère pour projeter des films, un monsieur vient me voir et me dit « Ah, j'aimerais bien présenter mon reportage sur la naturopathie. Je suis naturopathe et j'aimerais bien faire. Est-ce que vous seriez d'accord de participer à ça ?» Je dis « Oui, bien volontiers. J'ai accepté de faire la projection de ce film avec, puisque je connaissais connaissais la salle, j'avais le matériel qu'il fallait pour. Et puis, ce naturopathe qui était là a présenté son reportage, son film sur la naturopathie qui m'a beaucoup intéressé. Alors là, j'ai basculé sur la naturopathie durant quelques années aussi. Ça a été cette découverte aussi de la possibilité de... Dans la naturopathie, c'est d'être attentif aux équilibres alimentaires, à ce que l'on ingère et aussi à la manière dont notre corps métabolise en quelque sorte l'alimentation. Et ça, ça avait été aussi une expérience intéressante. Et donc, les choses se sont enchaînées un peu de cette manière-là. J'ai fait ensuite une maturité comme autodidacte. Dès que j'ai terminé ma maturité, j'ai commencé des études d'anthropologie, sociologie, anthropologie, et évidemment, je me suis intéressé aux médecines traditionnelles. Et voilà, les choses se sont un peu enchaînées de cette manière. J'ai gardé en même temps la possibilité de faire des formations. Je me suis formé en homéopathie. Et là aussi, mon professeur d'homéopathie me disait « La médecine, c'est quand même bien. C'est bien si on a les deux choses. » J'étais très, très réticent à cette idée-là. Mais néanmoins, je me suis dit que j'allais partir dans la médecine comme un travail de terrain. En anthropologie, on fait un travail de terrain. On va souvent dans d'autres cultures. Je me suis dit... Cette culture médicale occidentale m'est tellement étrangère que je vais faire mon travail de terrain dans cette médecine. Et ce qui fait que j'ai commencé de cette manière-là. À rentrer d'abord dans la médecine par un stage dans un centre de pneumologie où étaient les gens qui avaient des problèmes liés à la consommation de tabac, à l'alcool, enfin toutes ces choses-là. Et puis, partant de cela, je me suis dit, allez, on essaye, quoi. J'ai embarqué dans des études de médecine qui ont été assez difficiles pour moi, mais intéressantes dans la mesure où j'avais beaucoup de peine, surtout en venant en plus du milieu de la sociologie-anthropologie, qui était une petite niche assez restreinte, assez confidentielle à l'époque encore à l'université, d'arriver dans une faculté de médecine qui est avec un programme très scolaire, très structuré. Ça a été un apprentissage difficile, mais qui m'a permis vraiment de me plonger dedans au fur et à mesure dans ce monde médical. Mais toujours à cheval, finalement, entre les activités qui m'intéressaient à côté. Mais à l'époque, il ne fallait surtout pas parler de médecine parallèle, comme on le disait, à la faculté. C'était quelque chose qui... On nous mettait en garde, là, contre. Hein, on disait,
c'était tabou.
Oui. C'était tabou, c'est du charlatanisme, donc il ne faut pas rentrer là-dedans. Mais j'ai quand même gardé cette optique-là et travaillé un peu en parallèle sur mes études de médecine. Et en même temps, j'ai continué à m'intéresser, à me former dans des approches différentes.
Mais alors, si je comprends bien, avec toujours cette espèce de discrétion sur vos intérêts profonds par rapport en même temps à une médecine conventionnelle, puis à quelque chose de plus sensible, déjà avec l'homéopathie, avec la médecine chinoise, qui sont les premières compétences du soin que vous avez acquis, qui sont un peu différentes de celles qu'on a ici en général.
Oui, c'était confidentiel et en même temps j'ai eu de la chance, parce que c'est toujours comme ça dans la vie, je pense qu'on a des rencontres qui se font. J'ai eu la chance de rencontrer au sein de la faculté, dans un groupe Balint pour les étudiants en médecine, un professeur de médecine psychosociale qui, quand on échangeait, était d'un seul coup intéressé par cette question-là. Il me disait, oui, mais c'est passionnant cette question-là, ça vaut la peine d'en parler. Et puis en plus, on avait échangé sur la démarche anthropologique que j'étais en train de faire. Et lui m'a beaucoup soutenu au départ, en disant, mais même si à la faculté, on en parle, il ne faut pas en parler, mais moi, je trouve qu'il faut en parler, il faut en faire quelque chose, il faut aller vers une thèse ou vers quelque chose qui permette d'en parler. Et ça, ça a été un élément important, ce qui fait que lui est parti à la retraite et très peu de temps après... J'ai pu commencer un stage et puis ensuite j'ai travaillé dans un service chez Patrice Gay, le professeur Patrice Gay, qui a repris le flambeau de son prédécesseur avec cette idée que c'était un élément intéressant à explorer. Donc j'ai eu assez rapidement une petite ouverture sur ces questions et je pense que ça a été assez intéressant. Et ensuite, très rapidement, c'était en 1994, comme j'ai terminé mes études plus tard, je venais de terminer mon diplôme. Et la faculté de médecine devait, sous l'injonction du Conseil d'État vaudois et du Parlement vaudois, devait introduire un cours d'information sur les médecines parallèles et était très embarrassé parce qu'ils étaient contre, en quelque sorte. Hein. Donc pour eux, c'était difficile d'aller là-dedans. Mais c'est à ce moment-là aussi que Patrice Gate me disait « Vous venez de finir vos études, mais vous avez des documents » parce que j'avais enregistré pour un travail anthropologique environ 120 consultations médicales qui ont été filmées chez un homéopathe, chez un médecin généraliste, chez un psychiatre, chez un acupuncteur, chez un médecin ayurvédique. Et je comparais la relation, le climat de la relation soignant-soigné entre les différentes approches. Et donc j'avais une sorte de matériel qui était là, ethnographique quasiment là-dessus, qui a intéressé la faculté. Et donc dès le démarrage de cet enseignement, je montrais une consultation aux étudiants et j'invitais le thérapeute, évidemment le praticien qui était là, à venir aussi. La faculté avait demandé aussi à ce qu'il y ait des modérateurs de la faculté qui soient présents pour qu'ils veillent un peu sur la bonne conduite des choses. Et on est parti là-dedans, dans ce cours d'information sur les médecines parallèles de cette manière depuis 1994. En 1995, on a même fait un congrès au CHUV qui est arrivé. C'était entre Pendule et Scanner avec la Fondation Ling, dans laquelle j'étais aussi intégré à l'époque. On avait fait un grand séminaire de 3 ans. On avait présenté une 50aine d'approches différentes. On invitait toujours du monde entier des praticiens qui venaient nous montrer leurs pratiques. Tibet, Chine, Inde, Amérique du Sud, Afrique. Enfin, on a fait tout cela. Et puis on a fait un congrès au CHUV entre Pendule et Scanner qui était assez novateur parce que c'était vraiment le moment où le CHUV a dû accepter à ce moment-là aussi d'ouvrir ses portes à ce type de réflexion. Et ça a été des moments qui ont été extrêmement intéressants. Ce qui m'intéresse, ce sont les limites de toutes ces approches. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, autant la médecine académique que les autres approches butent toujours dans la dimension conceptuelle, intellectuelle, dans l'idée d'un modèle, d'une réflexion, butent toujours sur la même chose. C'est-à-dire que soigner, être en santé, guérir, être soulagé, ça ne s'explique pas. C'est de l'ordre de l'indicible. Il se passe des choses, on voit bien qu'il se passe des choses, mais à chaque tentative d'expliquer ce qui se passe chez un être humain qui change sa posture dans l'existence, qui s'adapte à son environnement, eh bien, chaque explication bute toujours, revient toujours à une chose très simple, c'est dire que finalement, ça se fait. Ça se fait.
Vous dites ce basculement d'un état pathologique à une guérison, c'est ça ?
Oui, je pense que l'état pathologique, la pathologie elle-même, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on fait avec ça ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment est-ce qu'on fait avec les aléas de la vie. Mmh. Être porteur d'une maladie, c'est la définition qu'on a dans la modernité. C'est, voilà, on attribue une cause à notre souffrance qui est celle de la maladie. Mais être porteur d'une maladie ne signifie pas forcément souffrir de cette maladie. Et on a fait un amalgame. C'est un peu comme si notre société pensait qu'en traitant la maladie, en éradiquant la maladie, on soulage la souffrance. Et ce n'est pas une équation qui est si simple. Parce qu'on peut être porteur d'une maladie et se sentir bien, et se sentir dans la vie. Et on peut aussi ne pas être porteur d'une maladie et souffrir aussi. Donc il y a quelque chose de l'ordre qui est de l'attitude, de la disposition que l'on a face aux aléas de l'existence, plus que de ces aléas eux-mêmes. C'est comment on fait avec tout cela qui va être intéressant. Et je crois que c'est un élément qui est extrêmement déterminant. Et la médecine conventionnelle qui est là pour traiter des maladies, et souvent beaucoup d'approches alternatives sont aussi avec cette rhétorique du traitement de la maladie, finalement, comporte toujours le danger de passer à côté de cette disposition naturelle qui n'est pas... Il n'y a pas de science de cela, c'est une expérience, c'est de l'empirisme, c'est l'expérience de faire avec les aléas de la vie. Et cet aspect me paraît très intéressant, et surtout parce que finalement le seul élément que l'on constate, et qui à mon avis est tout à fait déterminant, c'est la seule chose que l'on constate, c'est que une relation faite de bienveillance et de sollicitude agit. Et c'est tellement précieux, on ne sait pas comment ça agit, mais ça agit. Vous mettez deux êtres vivants ensemble, deux corps vivants, deux êtres vivants ensemble. S'ils ont une attention l'un à l'autre, bienveillante, il se passe des tas de choses. Et c'est ça le miracle, je dirais, en quelque sorte. Et là-dessus, les modèles, les pratiques, sur cette question-là, eh bien souvent ce sont des prétextes à cette relation. Mais ce qui agit, on ne peut pas dire que ce qui agit soit vraiment la méthode, la technique, le savoir de quelqu'un. C'est juste ce qui se passe entre deux êtres vivants. Et ça me passionne, parce que c'est de l'ordinaire, c'est de l'indicible, c'est de l'invisible aussi, hein, on est dans de l'invisible, on ne peut pas l'expliquer, c'est du non-savoir, et pourtant cela agit. Ce qui est important dans les différentes approches, ça n'est pas tant le modèle, il est intéressant, et puis il a certaines toutes des choses à nous dire aussi, mais je pense que le modèle, il est surtout intéressant dans la manière dont le thérapeute, le soignant, peut se trouver à l'aise dans son rôle de soignant, et avoir ainsi une sorte d'appui avec lequel il peut s'engager dans une relation de sollicitude avec un patient. Ça lui donne une sorte d'assurance, dans le bon sens du terme, qui lui permet d'être là pour le patient. Voilà, je dirais, la définition la plus large possible. Et en même temps, c'est de savoir que ce qu'il faut à tout prix préserver, qu'il faut entretenir, c'est cette relation, c'est la qualité. Quand je dis qualité, ce n'est pas dans le sens industriel du terme. Comme on l'a aujourd'hui dans les hôpitaux, quand on parle de la qualité, c'est de savoir si l'objet est bien fait. Mais c'est la qualité dans le sens premier du terme, c'est-à-dire ce qui ne se calcule pas, qui ne se mesure pas.
C'est ce qu'on appellerait aussi care.
Oui, c'est le care, absolument, c'est ça. C'est le soin, c'est le care, c'est la sollicitude, c'est-à-dire c'est une attention bienveillante à autrui. Et ça, ça a un effet qui évidemment est important, qu'il faut préserver. Donc, pour ma part, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que cette dimension, elle est à la fois invisible, indicible, mais elle est irrationnelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la rendre intelligible. C'est au-delà de la capacité qu'a notre conscience rationnelle d'expliquer les choses. Mais c'est une chose que l'on peut constater qui est là. On peut se laisser aller à cela sans chercher à l'expliquer. Il n'y a pas de jeu d'expertise là-dedans. Il y a quelque chose dans l'ordre de la relation qui est là et qui est accessible à tout être vivant.
Et ça va à l'encontre de tous les dogmes scientifiques actuels.
Ça va à l'encontre des dogmes scientifiques si on prend les dogmes rationalistes. C'est-à-dire que le rationalisme est parti de l'idée que tout ce qui existe est intelligible et ce qui n'est pas intelligible n'existe pas. Et le rationalisme s'est mis en opposition en cela à l'irrationnel, d'une part, et surtout à l'empirisme. Parce qu'on a dit, le rationalisme explique par la conscience, alors que l'empirisme se fait par l'expérience. C'est comment est-ce qu'on expérimente les choses. Et là, on voit aussi que ce qui a de problématique, je dirais, dans le monde scientifique aujourd'hui, ou dans la médecine conventionnelle, c'est le fait d'avancer la raison comme étant exclusive de tout ce qu'il y aurait d'autre. Et moi, je pense que la raison, elle a sa raison d'être, c'est un peu un euphémisme, mais elle a sa raison d'être, elle est intéressante. Le rationalisme, dans ce sens où la rationalité nous permet de manipuler des objets, de faire des tas de choses intéressantes, de manipuler des maladies aussi, hein, et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais elle ne doit pas être exclusive. La démonstration de l'efficacité d'un remède dans notre société, c'est de démontrer contre le placebo. On en a une médecine contre placebo. Le placebo, c'est quoi? C'est l'inexpliqué. C'est ce qui agit. La définition initiale du placebo, c'était de dire, oui, on utilise ce terme placebo, ça veut dire je plairai. On disait, attention, le malade, des fois, il veut plaire au médecin et il simule un effet pour plaire au médecin. Donc, on ne peut pas considérer qu'il est rationnel. C'est subjectif, c'est irrationnel. Donc, on l'a mis de côté. Or, le placebo agit en permanence. Donc, nous devons aller aujourd'hui vers une médecine. Il faut garder la médecine, mais avec placebo. C'est juste cette ouverture-là. On peut être dans la rationalité et être ouvert à l'irrationnel. On n'est pas en train de choisir un camp. Je crois que le rationalisme scientifique doit aujourd'hui oser le pas de l'ouverture, tout simplement. Et c'est celui-là que l'on est invité à faire en s'ouvrant à d'autres pratiques. Et là, on doit faire aussi attention à ce que les autres pratiques dans le monde de la médecine ne rentre pas non plus dans l'obsession du rationalisme, en disant on veut démontrer scientifiquement que notre médecine agit aussi. Dès qu'on fait ça, on s'éloigne de nouveau du principal acteur du soin qui est le patient. Parce que c'est à lui qu'il faut demander si ça lui fait du bien ou pas. C'est au patient qu'il faut demander si cela lui permet d'aller mieux. C'est pas aux chiffres, c'est pas un tableau de bord de chiffres comme le fait la science. Ça nous donne une partie de la réponse, ça nous dit comment cela agit sur la maladie, mais pas sur le malade. La science, elle est partie de l'idée qu'il faut trouver une vérité quelque part. Et donc, elle n'agira, la médecine scientifique va dire qu'elle ne veut s'occuper que de ce qui est vrai. Et je pense que la médecine, c'est d'abord un art du soin, qui ne doit pas s'occuper de ce qui est vrai ou pas, il doit s'occuper de ce qui fait du bien, de ce qui soigne l'autre. Et ça peut aussi soigner pour de mauvaises raisons. Mais tant que ça marche, Et c'est ça qui est important. Et c'est là-dessus qu'il faut être extrêmement ouvert, à mon avis. Et dans tous les camps, parce que au fil des années, j'ai vu tellement de pratiques, d'écoles, de modèles différents aussi, où je retrouve finalement le même malaise lorsque je vois qu'une doctrine s'installe, qu'un dogme s'installe, et que l'on perd cette... je pense que la raison, la pensée surtout, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose de dynamique qui ne s'arrête jamais. Donc il ne faut pas le figer, il ne faut pas en faire un objet.
Ce que je retiens aussi de votre parcours, c'est que vous êtes né à Crans-Montana.
Oui, juste l'autre côté, là.
Dans une famille nombreuse. Vous êtes le cinquième de 6 enfants, c'est juste ?
De 7 enfants, oui. Ah, 7. 7, oui, oui. Oui, famille nombreuse, comme c'était souvent le cas à l'époque. Mais effectivement, je suis arrivé un peu dans les derniers, dans la fratrie, avec... j'ai 4 frères et 2 sœurs. Mais j'ai vécu aussi à Crans-Montana, qui est une région vraiment magnifique, évidemment. Et je suis vraiment né là, à la maison, parce que ma mère nous a tous accouchés à la maison. Souvent on dit je suis né dans un hôpital. Non, moi je ne suis pas né dans les hôpitaux que je dirige, mais je suis né à la maison. Et puis dans une station touristique qui était très en vogue à l'époque... Tout était là, je veux dire, on avait des saisons dans lesquelles venaient les touristes, c'était les stars françaises qui étaient présentes. Moi, j'avais aussi la particularité d'être à ce moment-là, durant toute ma scolarité, le frère de mon père était conseiller fédéral. Donc, on était une famille un peu...
spéciale.
Spéciale.
Vous nous rappelez le nom du conseiller fédéral ?
Roger Bonvin. C'était Roger Bonvin, oui. Et donc...
Il y avait sur vous une attention particulière, oui, sur la famille Bonvin.
Une attention particulière, et il était très apprécié, lui, à l'époque aussi, mais c'était en même temps une période où le monde politique est un monde assez rude aussi, hein, de manière générale. Donc c'était une drôle de... C'était pas vraiment le monde, je dirais, rural, comme on peut s'imaginer à la montagne, c'est pas le monde des montagnards, c'était une sorte de petite plateforme privilégiée... en altitude.
Un cocon touristique, voilà.
Un cocon touristique, mais ça veut dire aussi des fluctuations dans l'année entre des moments de saison où on était quasi, où il y a des bouchons de circulation, où on n'avait pas de place, où il y a plein de monde partout. Et des moments, comme cette période qu'il y a ici en ce moment, c'est ces moments de morte saison, comme on dit, où il n'y a plus personne.
Donc là, on est fin avril, début mai.
Fin avril, début mai. Nous avions toujours nos vacances scolaires au mois de mai, parce que même les gens de la région partaient. Donc c'était le désert total, quoi. Alors c'était assez spécial, ces fluctuations, ces moments d'ouverture au monde et d'un seul coup de l'entre-soi, mais d'un entre-soi parfois encore assez rude, je dirais, qu'il pouvait avoir.
C'était le début d'une, on va dire, vous aviez une famille comme ça, en même temps hyper ancrée, mais aussi hyper ouverte de par...
Oui, hyper ouverte, alors déjà parce que ma mère... était
valoise et luthérienne, si je me rappelle
oui,
bien.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis mon père valaisan catholique, et ça a posé un problème. Leur mariage a posé un problème à l'époque. Mmh. Ils sont mariés clandestinement à Fribourg, parce que ça ne se faisait pas tellement, ce pluralisme confessionnel. Et puis, plus tard, c'est ma sœur qui s'est aussi mariée avec un Turc, d'Istanbul, et puis alors là c'était encore une autre culture et encore un autre monde, et là aussi c'était assez vécu d'une certaine manière au départ. Je pense que dans ma fratrie on a eu un peu de tout, du moine bouddhiste en passant par une moniale orthodoxe, des gens qui pratiquent l'astrologie, enfin on a, je dirais, un panel d'ouverture et de diversité assez grand dans la famille, voilà. Et c'est vrai aussi que une chose peut-être particulière, c'est que mon père était vraiment fasciné par le monde de l'occulte, de tout ce qui était autour de la magie, du magnétisme aussi, parce qu'on avait, du côté des Bonvin, on a une sorte de transmission qui s'est faite de génération en génération sur la radiesthésie, comme on dit, enfin sur le magnétisme.
Que vous avez reçu aussi ?
Que j'ai reçu aussi, bien sûr. Et il y avait cette sorte d'intérêt pour... Alors mon père était fasciné par... l'effet des pyramides, par exemple, sur la conservation des choses. Il s'intéressait à toutes ces pratiques. Donc, j'étais baigné dans un univers de grimoire, en quelque sorte. Ce qui était étonnant, il était avocat, mon père, hein, donc il avait tout à fait sa profession. Ce qu'il fait. Mais cette dimension était tout à fait particulière. Donc, finalement, ce contact avec cette idée de l'invisible, de ce qui se cacherait derrière les choses, a toujours été là. Mais je sais que j'ai toujours eu aussi une réaction, déjà à l'époque, où j'avais de la peine avec ce côté très théâtral, ces prières, ces cadres qui étaient mis en place, ces talismans, enfin toutes ces choses-là. J'arrivais pas à comprendre le côté, comment dire ça, ce qui m'a toujours frappé, c'était cette idée que certains ont le privilège d'eux et d'autres pas. Et donc j'ai toujours senti que je devais avoir une position dans l'ordinaire. Il n'y a pas de choses cachées à certains et accessibles à d'autres. Je pense que tout est là, même si on ne l'explique pas. Et ça, ça m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui, dans la relation ordinaire, se joue. Comment laisser se déployer cette relation ordinaire plutôt que d'essayer d'être dans une idée de manipulation quelconque par l'accès à je ne sais quelle sphère de l'au-delà qu'on expliquerait comme ci ou comme ça. Et ça, ça m'a toujours aidé, je dirais, dans l'existence. Alors j'avais parfois des discussions assez vives avec mon père là-dessus, mais pas du tout dans l'idée de la contestation de ce monde-là. Parce que je voyais bien qu'il se passait aussi des choses, mais surtout dans l'idée de la, je dirais, de la, j'ai envie de dire, de la démocratisation de cette dimension-là, plutôt pas rester dans des choses fermées, mais plutôt aller vers cette place ordinaire à tout cela.
Est-ce que vous pouvez me raconter le moment de votre existence aussi, de vie de jeune homme, j'imagine, quand vous avez reçu l'enseignement autour de la radiesthésie?
On reçoit un pendule et puis on dit, voilà, vas-y, regarde comment ce pendule peut te parler. Ah, c'est ça la rhétorique, c'est le pendule qui bouge lui-même, etc. etc. Et puis, vas-y, essaye, utilise. Alors, c'est assez simple la manière dont ça s'est fait. Alors,
vous aviez quel âge?
Je pense que le premier pendule que j'ai reçu, je devais avoir 14-15 ans, par là autour. Puis après, il y avait des pendules qui avaient circulé. À l'époque, c'était quelque chose d'incroyable. Hein. On devait aller à Paris pour aller dans des petites librairies du quartier latin pour essayer de trouver des petites librairies d'astrologie où il y avait des pendules. Aujourd'hui, on en trouve partout. C'est devenu très courant comme ça. Alors à l'époque, c'était assez particulier. Et puis après, c'était une question d'essayer les choses, de les pratiquer. Alors moi, je n'en ai pas fait un usage assidu, je dirais.
Est-ce que vous l'utilisez encore, alors?
Alors souvent, c'est, c'est lorsqu'on se pose des questions, pour savoir si... Alors moi, je l'utilise toujours de cette manière, c'est-à-dire, je me dis que ce n'est pas du tout infaillible comme histoire, mais c'est une sorte de première sensation des choses. S'il y a un malaise, une maladie, une chose comme celle-là, c'est pour essayer de voir est-ce que c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter ou pas.
Mais pour vous ou pour autrui?
Pour moi et pour autrui, mais ça reste généralement au niveau de la famille, on va dire. Mais c'est juste pour avoir une sorte de première sensation, sans être non plus fixé là-dessus. Mais je dirais, ce qui est très intéressant, c'est que ça canalise en quelque sorte sa disposition par rapport à cela. Après, il faut laisser les choses se faire aussi. Ce n'est pas le pendule qui va donner quoi que ce soit. Il met juste une sorte de première impulsion, de disposition pour
C'est une météo de la situation, c'est ça, en quelque sorte, ou pas?
Oui, mais une météo à l'ancienne, c'est-à-dire très, très lointaine. On n'est pas dans le... Voilà, c'est quelque chose... Il faut le voir comme étant, comme je dirais, un petit accès, un fragment d'intuition qui nous arrive. Mais l'intuition, elle ne peut pas se résumer à cela. Il faut ensuite voir de quelle manière laisser se déployer un peu l'intuition par la suite. Donc voilà, je sais pas, c'est un peu obscur tout ça, mais c'est...
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quelque chose qui est arrivé de loin dans la famille, qui vous a traversé et que vous avez peut-être donné plus loin à vos propres enfants.
Effectivement, ça c'est quelque chose qui est intéressant de savoir qu'il y a comme ça. Moi je pense aussi beaucoup dans le domaine du soin, que notre culture a probablement, la culture moderne et surtout industrielle, a finalement dépossédé les gens d'un savoir-faire ordinaire. Les gens qui vivaient avant dans la campagne, ou même les autres, qui vivaient en fait de manière beaucoup plus autonome, mais ils devaient se transmettre de génération à génération une manière de faire avec les aléas de l'existence. Aujourd'hui, quand on a un aléa dans l'existence, on va consulter un expert. Si j'ai mal au pied, je vais voir un orthopédiste. Si je suis un peu triste, je vais voir un psy, etc. etc. Mais on n'a plus cela. Et puis, comme ça ne s'explique pas, il n'y a aucun expert qui peut me dire comment je peux faire face aux choses, je pense que ces transmissions familiales, intergénérationnelles, sont capitales. Et je ne veux pas mettre là-dessus une sorte de vérité, mais c'est une sorte d'expérience. On est dans de l'empirisme, c'est-à-dire c'est un savoir, une sorte de savoir-être qui est là et qui permet de... Voilà, comment est-ce qu'on fait dans une situation de l'existence ? Comment on fait mes aïeux ? C'est intéressant, ils ont survécu, donc je pense que chacun a une expérience à transmettre. On est toujours seul dans sa propre expérience, mais je pense que ce type d'exemple, de piste à suivre, de première impulsion, comme pour la pendule, cette première impulsion qui est là, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Alors dans ce sens, je respecte beaucoup cette transmission.
C'est une boussole intérieure d'une certaine manière. Et oui. Ça me donne envie de vous parler de ce qu'on reçoit lors de son éducation, que ce soit des considérations autour de la foi, oui. Et des croyances. Comment ça s'est donné pour vous justement ce rapport à quelque chose de plus grand que vous ? Comment est-ce que vous qualifiez votre foi aujourd'hui ?
Je dirais c'est chaque jour je me pose cette question de savoir comment ce dont le je est issu. Parce que je pense que je ne suis pas le jeu qui parle ici consciemment, en fait, capte des bribes de ce qui le dépasse. On est déterminé par des choses qu'on ignore entièrement, auxquelles on n'accède pas. Et je pense que ce qui est très important, c'est d'être réceptif à cela. Réceptif pas dans une vérité qui me serait révélée, mais juste être tous les jours de bien s'installer et d'être conscient que je capte des bribes de ce qui me dépasse, mais que je ne peux pas l'expliquer. Et c'est pour moi une sorte de rigueur intellectuelle ou de la raison qui est de dire, ne te laisse pas prendre dans une explication. Ne te laisse pas prendre dans une croyance figée. Ne te laisse pas prendre par tout ce que le monde du mental et du rationnel t'apporte, mais ouvre-toi à ce qui semble être un rien, mais qui néanmoins est ce dont je suis issu, et ce dont je suis fait, et qui me dépasse entièrement. Et ça me paraît important. Voilà. Parce que sinon, je trouve qu'on est beaucoup trop pris dans l'idée qu'on est un programme, que la vie est une sorte de machine. C'est ça, notre monde part du principe, c'est depuis Descartes, hein, on dit le corps est une machine, l'humain est une machine, et moi j'arrive pas à me résoudre à ça. Mais je n'arrive pas non plus à me résoudre en disant « je saurais comment c'est ». Et je pense qu'on doit sortir de cette idée que la vie, pour moi ce qui est important c'est le vivant, que le vivant est de l'ordre. Le vivant, à mon avis, il est anarchique, il est adaptatif, il est fluide, il est en constante transformation. Il ne s'arrête jamais. Dès qu'on arrête le vivant, il est mort. Hein? Donc oui, et je pense que... De rentrer dans le flux, je suis plus dans l'esprit d'Héraclite en quelque sorte, hein, qui dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, parce que la vie c'est un écoulement, c'est un fleuve qui ne cesse de couler, et donc se mettre dans ce bain-là me paraît important. Et dès que je me mets sur une croyance, alors il en faut des croyances, hein, donc je suis pas, je ne veux pas mettre en exemple, hein, mais je suis toujours attentif à ça, de me dire dès que je suis trop dans une croyance, dans quelque chose qui fige, quand je dis « Ah, j'ai trouvé la solution », je dis « Attention, il ne faut pas que ça me sorte du mouvement ».
Quand on est directeur d'un hôpital cantonal comme celui du Valais que vous dirigez depuis 2012, vous avez traversé la pandémie, vous avez été à la barre d'un énorme navire avec énormément de stress pendant ces dernières années. Qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu debout et que vous êtes resté à la barre du bateau de la santé dans le canton du Valais ?
Alors, d'abord une nécessité de garder présent dans l'organe de gouvernance, en quelque sorte, de garder présent le fait que la raison d'être de l'hôpital, c'est de soigner. Et ce n'est pas toujours évident. Parce qu'aujourd'hui, on est plus dans un monde où la raison d'être de l'hôpital et des structures qu'on met en place, c'est de maîtriser les coûts. Et je suis profondément convaincu qu'on a inversé l'ordre des priorités, on a inversé la fin et les moyens. Et ça, c'est préoccupant. On le voit du reste aujourd'hui, les soignants sont épuisés, mais ils sont épuisés par une perte de sens. Et ils ont perdu cette raison d'être. Et ça, je crois que c'est... On est dans un monde qui est devenu... Tout est devenu une marchandise. Le travail est une marchandise. Soigner est une marchandise. Il faut produire. L'hôpital, c'est devenu un lieu de production, de prestation, diagnostic, traitement. hein, et tout est fait là autour. Donc ce qui me tient là-dedans, c'est de dire non, il faut rester avec cette, tant bien que mal, avec d'être le garant de cette raison d'être. Voilà, ça, je pense que c'est un élément important. Mais ce n'est pas toujours facile, et c'est vrai que les contraintes budgétaires, politiques sont souvent très très grandes. Alors ça, c'est un des éléments. Ensuite, je pense, si je pense surtout à la pandémie, ce que j'ai trouvé d'extrêmement intéressant avec cette période de la pandémie, c'est que d'un seul coup, justement, ce monde de la planification, de la programmation, de l'organisation, de la gestion pure, est volé en éclats. D'un seul coup, et ce que j'ai toujours dit, le maître mot dans cette période, c'est l'adaptabilité. On fait chaque jour avec ce qui vient. On ne peut pas commencer à dire « je vais planifier les choses ». Je ne peux pas dire qu'on va prendre les commandes et gouverner cela. Non, on va essayer d'adapter au mieux chaque journée, chaque jour qui passe, on va adapter au mieux ce qui se passe. Et donc c'était de nouveau d'être dans une posture, surtout vis-à-vis de la population qui attendait beaucoup et en valait beaucoup d'informations passées par, comme je suis le porte-parole de l'hôpital, j'étais très présent dans les médias pour la population. Et le maître mot aussi là-dedans, c'était de ne jamais affirmer des choses. C'était jamais de dire « oui, maintenant, c'est comme ça, on sait ceci ». Non, on a toujours dit, avec mon collègue infectiologue, avec qui je travaille tous les jours, puis mon collègue journaliste de la com qui était là, on a toujours travaillé tous les jours en disant bon, « quelles sont les informations qui viennent ? Qu'est-ce que l'on a du point de vue de la science, du point de vue des médias et du politique ? Et comment est-ce qu'on peut s'ajuster à cela ? Quel message on peut donner aux gens ? Non pas pour leur dire « maintenant, on a une vérité » ou « on sait ceci ou cela », mais se dire « non, on ne sait pas, mais... » Voilà ce qu'on sent, voilà ce qu'on pense qu'il serait mieux de faire pour l'instant, mais ça peut changer dans deux jours. Et cette posture-là était très importante, je pense. Et elle résume assez bien pour moi le fait que j'étais assez à l'aise finalement là-dedans, parce que ça me paraissait plus ajusté au vivant qu'un fonctionnement ordinaire de l'institution médicale.
C'est assez intéressant, j'ai l'impression que ça a forcé à une posture d'humilité en fait.
Absolument. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Une posture d'humilité et justement une posture qui nécessitait de remettre la rationalité en mouvement. Elle ne pouvait pas s'arrêter sur des dogmes. Et certains sont arrêtés là-dessus. On a vu, ça s'est polarisé à un moment donné, hein, mais dans un sens comme dans l'autre. Et là aussi, dans le monde des, puisqu'on est dans le monde du pluralisme aussi, des méthodes et des modèles, ce n'était pas le propre de la science que d'être très... Au contraire, la science essayait de dire là plutôt « on ne sait pas ». C'était plutôt soit le monde de l'industrie qui a été très affirmatif à un moment donné, qui a fait du commerce avec cela et qui s'est fait beaucoup d'argent avec cette crise du Covid, soit effectivement des mouvements, des groupuscules qui affirmaient, soit par le complot ou d'autres choses, savoir des choses qui seraient occultes et cachées quelque part. Et je pense qu'il fallait être là-dedans... ouvert à tout. Il fallait aussi savoir se remettre en question puis dire, ouais, on a essayé ça, mais ça, on aurait peut-être pu faire mieux, mais il faut être prêt à faire mieux si on peut le faire. Et ça, c'est des éléments importants. Et je suis d'accord, je pense que c'est une grande humilité et je pense que c'est ce que devrait avoir aujourd'hui, cette question d'humilité, c'est la posture que devrait avoir à la fois le monde de la science, si on veut bien, du point de vue de la rationalité, mais aussi le monde des soins, en sachant que depuis la nuit des temps, on a des méthodes, des pratiques, on n'a jamais rendu l'homme immortel, comme essayait de le faire déjà Descartes à l'époque, ou comme nous le promettent aujourd'hui l'Université de la Singularité à la Silicon Valley. Mais voilà, on est dans chaque époque différente et on doit juste se transmettre l'art de composer avec les aléas de l'existence. Et ça, ça change d'une génération à l'autre, d'un moment à l'autre, et il faut qu'on soit suffisamment humble pour dire qu'on n'aura pas la solution éternelle pour tout le monde et absolue.
Il y a une autre particularité de votre personnalité, j'ai envie de dire, c'est de donner de la liberté à vos équipes. Parce qu'à l'hôpital du Valais, par exemple dans la saison 1 de La médecine et l'invisible, on avait rencontré une jeune interne qui s'appelle Florence Muller, qui a le secret, donc qui peut barrer le feu par exemple, ou qui peut apaiser certaines hémorragies, ou disons soulager certains maux grâce à des paroles qu'elle a reçues, puis à une forme d'intention, à une prière. Et ça, d'habitude, dans le milieu hospitalier, c'est tabou. On ne peut pas avoir cette parole-là. J'ai essayé pendant d'innombrables années d'avoir accès à ce genre de discours dans les hôpitaux publics. Et j'ai jamais eu accès à ça. Et il se trouve que dans votre hôpital, en tout cas dans un de vos hôpitaux, vous laissez la latitude à vos médecins, à vos infirmiers, infirmières, d'expérimenter et de venir apporter une forme de complémentarité dans l'approche scientifique conventionnelle avec justement ce côté sensible-là. Qu'est-ce qui fait que vous l'autorisez et que ce n'est pas un tabou chez vous ?
D'abord, je pense que la première des choses là-dessus, c'est de faire confiance dans l'humain. et cette collègue était dans une disposition et une attention très qualitative avec la pratique et cette pratique complémentaire, comme elle le dit aussi, qu'elle utilise. Et je pense que c'est juste, c'est de laisser cette libre. Moi, je pense que chaque actrice, chaque acteur de l'hôpital qui est en présence avec des personnes en souffrance a l'aptitude naturelle à soigner par la relation. Et ça me paraît important. Vous savez, on a fait par exemple des tas d'études sur la psychothérapie, en disant qu'est-ce qui agit dans les psychothérapies. Il y a eu des milliers d'études là-dessus. Parce qu'on s'est dit, voilà, il y a certainement une technique qui est plus adaptée pour telle ou telle maladie. Et puis, au résultat, on se rend compte qu'il n'y a aucune technique qui peut dire, voilà, moi j'ai la recette qu'il faut pour ceci et cela. Non, on s'est rendu compte que, voilà, on n'arrivait pas à faire différence entre les différents modèles. Et il y en a des centaines de modèles. Et puis, par contre, on s'est rendu compte que il n'y a pas de différence entre les modèles, mais qu'il y avait une grande différence pour les personnes qui allaient en thérapie et celles qui n'y allaient pas. C'est-à-dire le fait de rencontrer quelqu'un, quand on est en souffrance, agit. Et agit jusqu'à 10 fois plus que si on ne le fait pas. Donc ça, c'est très intéressant. Et peut-être pas pour tout le monde, mais disons que pris dans l'ensemble. Et après, on s'est dit, mais alors, qu'est-ce qui agit dans cette relation ? Puis là aussi, on retombe sur une chose qui est très intéressante, c'est qu'on se rend compte que ce qui agit le plus dans la relation thérapeutique, dans les psychothérapies, ce sont ce qu'on appelle les facteurs extra-thérapeutiques. Ça veut dire que ça se passe dans la vie de la personne et pas là, dans la relation qu'on a. Donc c'est quand la personne est dans son milieu, elle est dans son environnement, dans son écologie, que les choses changent. Puis ensuite, pour la part qui agit dans la relation thérapeutique, eh bien, ce qui agit le plus, c'est ce qu'on appelle les facteurs non spécifiques de la relation. Ce sont justement les facteurs qui sont totalement singuliers, c'est la chaleur relationnelle, la manière de dire bonjour, enfin des choses comme celle-là, et que finalement la part technique, elle a un très petit rôle là-dedans. Et si je dis ça, c'est parce que, si, pour ma part, ça a toujours été important de découvrir cela aussi, ces études. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire confiance dans sa personne, pas d'une manière vaniteuse, hein, bien sûr, mais notre présence d'être humain agit. Et je pense que si une personne comme Florence Muller, qui agit à un moment donné par la relation, ben c'est ça le guérissage aussi. Il y a une relation qui s'établit, il y a quelque chose de très fort. Et qu'elle le fait dans le cadre de sa pratique médicale, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Parce qu'elle peut, comme je le disais tout à l'heure, faire de la médecine avec placebo. Et placebo est entendu ici dans un sens très noble du terme. Hein, c'est-à-dire ce qui agit sans que je puisse l'expliquer. Et ça me paraît important. Donc aujourd'hui, on cherche des programmes, des techniques, des méthodes avec des consultants externes, mais les gens ont ce qu'il faut là. Et je pense que c'est tellement important, et c'est tellement important pour les patients, que évidemment, ça me paraît être une source extraordinaire.
Comment vous expliquez le tabou qui continue de planer la plupart du temps autour de ces questions-là ? Parce que justement, c'est des actes qui ne sont pas monnayables, qui ne sont pas justement, on va dire, décomptables dans le TARMED.
Oui, alors bien sûr, il y a cela, mais en amont de cela, il y a la posture très rationaliste, de dire ça n'est pas intelligible, donc ça n'existe pas. Donc, vous êtes en train de tromper les gens parce que la vérité n'est pas là. Et ça, c'est le fondement médical, je dirais, qui est là et où on dit on doit vérifier l'efficacité sur la maladie. Et si une personne va mieux ou pas, c'est un effet secondaire accessoire. Et ça, c'est un premier élément. Puis ensuite, il y a le fait qu'on a fait une machine, on a industrialisé tout ça, et puis on en a fait des marchandises, des prestations qui sont définies par des codes diagnostiques, mais on définit des maladies. L'hôpital traite des maladies, mais ne soigne plus les malades. Ça, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte de cela. La médecine, si vous regardez dans le dictionnaire, le médecin traite des maladies. Et il faut à tout prix le ramener aux soins aussi. Alors aujourd'hui, on a confié ça aux professions soignantes, on a fait la division du travail, comme on dit. Mais je crois que c'est une collaboration qui doit se remettre en place. Et donc, cette dimension de soigner la personne malade, et pas uniquement traiter sa maladie, c'est la vocation, c'est la raison d'être essentielle d'un établissement hospitalier ou de l'institution médicale dans notre société. Elle doit revenir à ça.
Ramener les médecins et les institutions aux soins, c'est ainsi que se termine ce portrait du psychiatre Éric Bonvin qui dirige l'hôpital du Valais. Notez qu'Éric Bonvin est également rédacteur en chef d'une nouvelle revue dont le premier numéro est sorti au début de l'année. Elle s'appelle la Revue de Santé Intégrative.
Une revue publiée par les éditions Médecine et Hygiène et soutenue par la Fondation Lénartz. On y retrouve plusieurs articles passionnants avec des interviews et réflexions de professionnels de la santé ainsi que de patients qui témoignent d'un nouveau regard sur le soin et sur la guérison.
La médecine et l'invisible, un podcast de Pauline Vrolix et Samuel Soquet, réalisé par David Golland.
C'était le dernier épisode de La médecine et l'invisible pour cette saison 3. On espère que vous avez partagé le plaisir qu'on a eu tous les deux à rencontrer tous ces médecins, ces chercheurs et ces chercheuses dont les parcours témoignent d'un changement de paradigme dans le domaine de la santé.
Si vous avez envie de retrouver nos contenus, vous pouvez aller sur rts.ch/invisible ou sur le Play RTS et sur la plupart des plateformes de podcast.
Nous sommes curieux de savoir comment vous avez perçu notre émission. N'hésitez pas à nous l'écrire à invisible@rts.ch.
Merci beaucoup pour votre écoute.
La médecine et l'invisible. Un podcast de la RTS.